La compagnie des auteurs, c'est parti. Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amard, Didier Pinault, Eva Le Saux. À la réalisation, Laurence Millet. À la console, Dali Yara.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le troisième épisode de notre série consacrée à l'auteur notamment de Chéri, du blé en herbe et des vrilles de la vigne, Sidonie Gabrielle Colette. Colette, dont la vie mouvementée ne se résume pas en quelques phrases, de sa collaboration à ce qui ressemblait à des ateliers de confection de romans sous la houlette de son premier mari, Willy, à sa période d'artiste de music-hall, de ses amours saphiques à son mariage avec un homme en vue, Henri de Jouvenel, Colette a connu Une existence qui est une série de réinventions d'elle-même. Gérard Bonnal nous en parlait lundi. Mardi, c'est du regard de Colette sur les choses de la vie dont nous avons discuté, des animaux, des déménagements, mais aussi de l'actualité de son temps, comme l'affaire de la bande à Bono qu'elle a racontée par exemple parmi l'un des 1260 articles rédigés pour divers journaux, articles épluchés par Frédéric Magé qui était notre invité d'hier. Demain, nous nous arrêterons sur la femme, Colette, la question du féminisme, de la jouissance féminine, mais aussi de sa souffrance. Ce sera avec Julia Kristeva. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reçois l'universitaire Jacques Dupont qui a participé à l'édition des œuvres complètes de Colette en Pléiade. Il est également l'auteur de plusieurs livres à son sujet, en particulier d'un physique de Colette paru en 2003 aux presses universitaires du Midi. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Il y a comme ça dans mon œuvre des choses envers lesquelles je me suis gardé à moi-même un peu de rancune et dont je me dis maintenant, bien que brimé, bien que enfermé quelquefois, tête à tête avec une page blanche, des lignes et des pages dont je me dis, eh bien non, j'aurais dû résister mieux, je n'aurais pas dû les écrire.
Bonjour Jacques Dupont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Colette semblait penser qu'il y avait chez elle certains livres qu'elle aurait mieux fait de ne pas écrire. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'elle a raison, d'abord.
Ah oui, lesquels alors ?
Je suis de ceux qui, à tort ou à raison, jugent que la série des Claudine n'est pas exactement son chef-d'œuvre. D'ailleurs, elle-même disait à la fin de sa vie qu'elle avait du mal à se réconcilier avec cette première partie de sa vie d'écrivain et de romancier, ou de romancière si vous préférez. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que je pense que Colette est connue pour de mauvaises raisons, et que notamment la célébrité un peu sulfureuse, en tout cas vers 1900, de la série des Claudine, a fini par occulter un certain nombre d'œuvres plus importantes, non seulement romanesques, mais aussi non romanesques. Et que l'image d'une Colette exclusivement romancière, qui est un petit peu celle du grand public parfois, est fausse.
Alors, puisque vous parlez des Claudine, je propose qu'on écoute tout de suite un enregistrement de Colette parlant justement de la manière dont se fabriquaient ces romans sous la houlette de Willy.
Est-ce que M. Willy, dès le départ, vous a aidé à écrire Claudine par des conversations, par exemple, en vous indiquant des personnages ou des situations ?
Plutôt par des indications, en effet. Oui, je ne vois pas d'autre manière qu'il ait eu de ce que vous appelez, de m'aider. Non, je ne vois pas bien. Ça ne peut pas s'appeler une aide, non. Plutôt un conseil. Un conseil, deux ou trois conseils. Du piment.
C'était son
n'ayez
mot.
N'ayez pas peur de pimenter, n'est-ce pas ? N'ayez pas peur de pimenter.
Est-ce qu'il vous indiquait de quelle façon pimenter ? Est-ce qu'il vous disait ce qu'était pour lui le piment ?
Il me demandait que ce fut que ses confidences, s'il faut dire, de petite fille encore, fussent un peu moins, non pas de petite fille, mais fussent un peu moins pour petite fille.
En tout cas, dès le départ, le principe de Claudine était posé dans l'esprit de M. Willy. Il savait ce que vous alliez faire.
Non, pas du tout. Non, je vous assure. Non. Moi non plus.
Et quelle a été...
Nous avions tous les deux à ce moment-là l'excuse de l'ignorance.
Alors c'était trop pimenté aussi, selon vous, Jacques Dupont par Willy. Pour être honnête, c'est Claudine.
Non, je pense que c'était ni trop pimenté, ni pas assez pimenté, c'était commercial. Et de ce point de vue-là, c'est typique d'un certain faisandais de la belle époque, hein. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Et je crois que c'est une des raisons, peut-être, du rapport toujours un petit peu problématique que Colette a eu avec le roman. C'était un mauvais départ, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'elle a lu comme romancier? Quelles sont ses références? À ma connaissance, il y en a essentiellement deux. Balzac. Qui a été son livre de chevet jusqu'à la fin de sa vie.
Elle en parlera tout à l'heure dans une archive.
Elle en parle peut-être tout à l'heure. Vous avez peut-être retenu cet extrait-là. Et puis Proust, pour lequel elle avait une immense admiration. Ouais. Et je dirais que ce qui, dans Proust, provoque une mutation majeure de l'art du roman, et notamment dans des techniques que je qualifierais pour aller vite et un peu pompeusement de resubjectivation du roman après l'époque naturaliste et tout ça, l'époque réaliste d'une manière plus générale, au sens ample du terme et sur la longue durée, je pense que Colette en a tenu le plus grand compte dans ses propres romans, incontestablement.
Mais vous avez le sentiment qu'elle n'est pas au meilleur de son art dans le roman?
Non, je ne dis pas ça. Je dis que... Enfin, si j'ai envie de dire ça parfois, par agacement devant le rétrécissement, je dirais, relatif de son œuvre qu'implique l'obsession de Colette romancière. Par rapport à une œuvre quand même considérable, il y a je ne sais plus combien, 17 volumes dans l'édition des œuvres complètes, qui n'est pas complète. Donc les romans occupent une part importante, certes, mais je ne suis pas sûr que ce soit la plus significative.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, alors?
Moi, ce que je retiens, mais vous en avez parlé hier avec Frédéric Magé, la Colette chroniqueuse me paraît très remarquable et très sous-estimée, même dans un livre comme La Jumelle Noire, qui semble relever un peu de l'écume des jours, du journalisme au sens le plus quotidien du terme, ou presque quotidien, hebdomadaire en tout cas. Il y a des pages fulgurantes un peu partout, même quand elle parle d'œuvres insignifiantes, tombées à juste titre dans la poubelle de l'histoire. Il y a presque dans chacun des comptes rendus, au moins, un passage fulgurant.
Mais dans Chéri, dans Le Blé Alors, en Herbe, il n'y a pas de passage fulgurant?
Bien entendu. Je pousse le bouchon, si je puis dire, un peu loin par réaction. Mais bien sûr. Et notamment, Colette elle-même estimait que ses chefs-d'œuvre, ce dont elle se rengorgeait, comme elle disait, c'était certainement Chéri et la fin de Chéri. Et sur ce point, je crois qu'elle a raison.
Alors, il y a une dimension qui vous intéresse en particulier, Jacques Dupont, chez Colette. C'est Colette comme écrivain matériel. Je pense à cela parce que en 2011, vous avez signé dans le Cahier de Lerne, consacré à Colette, un texte qui s'intitule justement « L'écrivain matériel ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce que vous entendez par ce terme?
J'ai emprunté ce terme, à vrai dire, je ne l'ai pas inventé, j'ai emprunté ce terme à Leclésio, qui a écrit un très joli texte d'hommage à Colette, dans le même cahier d'ailleurs, enfin qui avait été publié il y a
pourtant, entre
longtemps.
Leclésio et Colette, on n'a pas l'impression qu'on est dans la même veine.
Mais et pourtant, si vous regardiez les premières œuvres de Leclésio, vous vous apercevriez peut-être qu'il y a une attention au sensible, qui... Mon noble avis dérive directement de ça. Et j'ai appris par la femme de Claude Pichois qui travaillait à l'époque à la
Claude Pichois qui a dirigé les œuvres complètes à la Pléiade.
Claude Pichois qui a dirigé, bon. Et sa femme travaillait à l'époque à l'université d'Aix. Elle m'a raconté que le mémoire de maîtrise de Leclésio portait sur Colette, ce que j'ignorais. Donc vous voyez, là, il y a une filiation peut-être plus secrète qu'on ne pourrait le penser.
Alors cette matérialité... Cette matérialité.
Alors cette matérialité, je dirais que Colette, j'ai employé ce terme-là parce qu'il me semble que Colette est un écrivain du monde sensible, et parfois de conséquence, très attentive aux formes innombrables que prend le monde réel, le monde matériel, dans ses formes les plus extrêmement variées, complexes, etc.
Donc le mode sensible, par opposition à quoi ? Au monde spirituel, au monde intellectuel ?
Par opposition en tout cas au monde intellectuel, ce qui ne veut pas dire que Colette soit sotte. Loin de là, c'est une femme extraordinairement intelligente, qui a une immense intelligence de la vie, comme on dit vulgairement, qui ne passe pas, en général, me semble-t-il, par des prismes ou des formulations intellectuelles. Tant mieux, parce que le rôle des écrivains n'est pas de se substituer aux intellectuels, mais de nous dire ce qu'ils voient. Et Frédéric Mégeyer insistait bien sur le fait que pour Colette, écrire, c'était d'abord regarder, sans préjugés, sans arrière-pensée. Et à certains égards, se livre même une sorte de suspension de jugement sur ce qu'on voit, pour mieux voir. Donc, de ce point de vue-là, le monde réel... Alors là, j'ai fait une description de ce qu'on pourrait appeler les divers avatars de la matérialité dans l'œuvre de Colette. Qu'est-ce qui est sa passion de la compacité, par exemple, de l'épaisseur matérielle, ce qu'on pourrait appeler pompeusement la dialectique entre la surface et la profondeur, les jeux de couleurs, enfin, toutes sortes de choses de ce genre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme vous en parlez à la fois dans cet article et maintenant, on a l'impression que vous parlez d'un plasticien ou d'un peintre ou même d'un designer. Vous parlez effectivement de la surface, de la brillance. Et c'est ça que Colette décrit. Est-ce que du coup, il y a quelque chose de cet ordre-là, selon vous, chez cet écrivain ?
Absolument, absolument. Et c'est d'autant plus paradoxal que, à ma connaissance en tout cas, Colette n'avait pas une culture picturale extraordinairement développée. Elle a fait quelques catalogues d'expositions, vous voyez, des choses comme ça, mais à des fins plutôt alimentaires et plutôt à la fin de sa vie. Elle ne s'intéressait pas au cubisme, par exemple. Elle est passée à côté de la plupart des grandes métamorphoses plastiques.
Comment vous expliquez ça, alors ? Pour cet écrivain, quand même, de l'œil.
Voilà. Alors, je crois que pour elle, l'apprentissage, il n'est pas plastique, mais qu'elle retrouve un certain nombre de passions plastiques, je dirais, au début du siècle. Et notamment, il y a une dimension presque fauve chez Colette, il y a aussi une dimension qu'on pourrait qualifier pour aller vite, et il faudrait affiner, impressionniste.
Quand vous dites fauve, c'est pourquoi ?
Virulence, des couleurs, le goût des couleurs qu'elle qualifiait à un endroit de gymnote. Vous voyez, c'est très violent parfois.
Oui, vous parlez de la violence sensible. Qu'est-ce que ça signifie, la violence sensible de la matière ?
Ben, ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, ce qu'on définit souvent comme quelque chose d'extrêmement abstrait, évanescent, etc., comme la musique. Colette emploie des métaphores qui, quelquefois, sont extraordinairement violentes. Elle parle de vagues de musique ou de blocs de musique. Enfin, vous voyez, il y a toujours, lorsqu'elle écoute, par exemple, du jazz aux États-Unis, elle est frappée par la virulence de la musique. Elle le rend admirablement, d'ailleurs.
Et du coup, elle fait de la poésie en ramenant à la matière, finalement, ce qui n'est pas de la matière. Vous prenez par exemple cette expression de Colette, la nuit qui se solidifie, ou les odeurs qui prennent corps. Donc cette poésie de Colette, elle passe forcément par la matière. Sinon, il n'y a pas de poésie, c'est ça ?
Non, je ne sais pas ce que je dis. Je dis que dans son cas, la poésie passe par la métaphorisation de la matière dans bien des cas. Je ne dis pas que c'est la forme unique que peut prendre la poésie dans son œuvre. Bien entendu, ce serait ridicule.
Bachelard dit que toute la provocation de Colette se trouve justement dans cela que vous venez de décrire. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi c'est une provocation ?
C'est ce qui nous sort de notre sommeil dogmatique. Tout ce qui nous sort de nos habitudes sensibles, sensorielles, tout ce qui nous fait redécouvrir le monde sous un jour un peu nouveau. Il y a une anecdote que je trouve merveilleuse. Colette regardant je ne sais plus quoi et s'arrêtant tout à coup en disant « c'est blanc foncé ».
Ouais.
Vous voyez ce genre de paradoxe du sensible auquel elle était attentive tout le temps, toute sa vie.
Alors s'il y a un écrivain de la matière dont on parlait tout à l'heure, c'est sans doute Balzac. Voilà ce qu'elle en disait.
Je ne peux pas parler sainement de Balzac. Je suis née dans Balzac. À partir de l'âge de 6 ans, je lisais, un peu perdu souvent, je lisais Balzac. De même qu'à 9 ans, j'étais amoureuse de la chronique de Charles IX de Mérimée. Je l'ai aimé trop tôt. Je l'ai habité dans tous les temps de ma vie. Il est encore là au bout de mon lit. Comment pouvez-vous connaître et comment pouvez-vous mesurer l'action que peut avoir sur vous-même un être que vous aimez? Il ne peut être que dangereux ou que tutélaire, Mais moi, je ne saurais pas en parler lucidement. Et quand je n'avais pas un grand amour ou que je croyais le détester, j'avais une grande fréquentation de Balzac, dans tous les cas.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes avec Jacques Dupont pour parler de Colette, qui parlait à l'instant de son admiration pour Balzac. Est-ce qu'elle est balzacienne, Colette ?
Oui et non. Elle l'est au moins de deux manières. Peut-être même de trois. Enfin, commençons par les deux auxquels je pense maintenant. D'une part, elle l'est par ce que Balzac lui a appris du rôle de l'argent dans la vie, dans les amours. La plupart du temps, dans ses romans, les choses s'imbriquent. C'est pas du tout quelqu'un, Colette, pour laquelle les amours se passent dans une sorte d'empiré, dégagé de toute contingence matérielle, etc. Et un roman comme Julie de Carnayan, par exemple, est d'une cruauté extraordinaire dans la démonstration de ce que le manque d'argent peut conduire une femme à faire. Et un homme aussi, d'ailleurs. elle est aussi balzacienne, je pense, par ce que Balzac lui a appris de la passion. Et elle se réfère à plusieurs reprises à cette forme particulière de passion, d'ailleurs, qui est décrite dans La fille aux yeux d'or. C'est un de ses grands textes. Elle y revient à plusieurs reprises. Et j'aimerais ajouter peut-être quelque chose qui éclaire sans doute un roman comme La chatte. Elle a lu très attentivement, il y a des indices et des allusions qui le prouvent, Une passion dans le désert, qui, comme vous savez, raconte l'espèce d'amour un peu... entre guillemets, contre nature, qui s'établit entre un officier dans le désert, d'Afrique du Nord, je crois, si j'ai bonne mémoire, avec une panthère. Mmh. Et les relations d'Alain et de la chatte, me semble-t-il, sont une transposition de félin à félin.
Ouais. Hein, avec un animal quand même moins dangereux.
Avec dans un animal nettement moins dangereux, mais tout aussi amoureux de son maître.
Et la nourriture, ça aussi, c'est matériel d'une certaine manière.
Bien entendu. Il y a deux façons, là encore, de considérer le rapport de Colette à la nourriture. Il y a la façon anecdotique qui consiste à énumérer les recettes de cuisine qu'il y a dans son œuvre, à rappeler qu'elle était une grande gourmande et le volume respectable qu'elle a fini par acquérir semble le prouver. Enfin, on n'a pas besoin d'ailleurs de ce genre de preuves, on le sait de façon parfaitement attestée. Moi, ce qui m'intéresse chez elle, c'est pas tellement cet aspect-là, c'est là encore la poésie de la nourriture qu'elle réussit à nous proposer.
Comme quand elle parle des patientes d'aube, par exemple, ou quand elle décrit des fromages devenus de la cire transparente, jaune, ou alors de sec et transparent fromage vieux comme le vieil ambre.
Ou lorsqu'elle parle des fruits confits qu'elle admire dans une vitrine de Cannes. c'est sa marque de fabrique à elle, si je puis dire, de tout de suite, là encore, repérer ce qui, dans l'objet alimentaire, peut-être l'objet de contemplation, peut-être un thème de contemplation et de poétisation dans certains cas. Elle parle par exemple, à propos du lièvre à la royale, des cariatides d'ail sur lesquelles repose le plat ainsi nommé.
Et quand elle parle du vin, elle médite sur cet événement matériel qu'est la transformation du liquide lui-même.
Bien sûr. Là, de ce point de vue-là, elle ne dit rien de neuf. Tout le monde sait très bien que le destin du vin est de nous raconter, d'une certaine façon, une histoire de sa transformation, enfin, de sa... Bon. Mais aussi, c'est elle qui nous a proposé ce que j'appellerais des buccanalyses de ce qui se passe quand on avale une gorgée de vin. Mmh. Et de tous les écrivains que je connais, je reconnais que je... Bon, il y en a un certain nombre que je ne connais pas. C'est elle qui a proposé l'analyse la plus fine de ce qui se passe quand vous buvez un verre de vin.
Et vous vous en souvenez maintenant quand vous buvez un bon Bordeaux ou un bon Bourgogne. Plutôt un bon Bourgogne d'ailleurs dans le cas de Colette.
Dans le cas de Colette, oui, bien sûr. Thank you.
Colette, écrivain matériel, donc, c'est le premier axe que nous souhaitions développer avec vous. Mais Colette également moraliste. Alors là, c'est plus inattendu encore. Vous allez nous expliquer en quoi elle est pour vous une moraliste, Jacques Dupont.
Alors tout dépend de ce qu'on entend par moraliste, bien entendu. Si l'on entend par moraliste quelqu'un qui est obsédé par une morale prescriptive, quelqu'un qui passe son temps à faire la leçon aux autres, etc., etc., bon, il est très clair que Colette est tout à fait...
Pas du tout ça.
N'est pas du tout dans ce registre-là. Il ne s'ensuit pas pour autant que la question de ce que j'appellerais peut-être plutôt l'interrogation morale que le discours moral au sens argumenté, etc., est disparu de son œuvre, loin de là. Et c'est une chose d'ailleurs dont j'ai mis un certain temps moi-même à m'apercevoir. J'avouerai en faisant mon autocritique que j'ai longtemps retenu la doxa qui voulait que Colette fût avant tout un écrivain hédoniste.
Mmh. Ça vous semble plus le cas aujourd'hui ?
Disons que ça ne me semble pas suffisant.
Parce que Julia Kristeva nous dira, je pense, demain, que c'est un écrivain hédoniste.
Bien entendu, c'est pas niable. Simplement, je dis que ce n'est pas toute la vérité de Colette. Et que Colette est quelqu'un qui, à mon avis, a cette grande qualité d'être à la fois dionysiaque et, si je puis dire, apollinienne. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui a appris à prendre du recul envers tous les égarements de la chair, ou de l'esprit dans certains cas, mais surtout de la chair. Et c'est très sensible dans la tentation récurrente chez elle d'écrire un essai. Nous savons que dans une lettre qu'elle écrit à Proust, elle lui dit « Vous avez écrit ce que, à propos de l'inverti, à propos de l'homosexuel masculin, ce que je rêvais d'écrire dans un essai auquel je songeais. » Sodome et Gomorre l'a un petit peu dépossédé de ce territoire. Qu'est-ce qu'il lui restait comme territoire ? Il lui restait le saphisme. Il lui restait l'homosexualité symétrique, si je puis dire.
Qu'elle a donc parallèle. Su investir.
Voilà. Donc, il est incontestable qu'il y a une dimension essayiste, réflexive, je crois, chez Colette, qui se manifeste notamment, mais pas uniquement, dans le champ de la réflexion sur ce qu'on appelle parfois, chez certains psychanalystes, une éthique de la différence sexuelle, sur ce qu'est la jouissance, sur ce qu'est le rapport de l'être à sa sexualité, à sa sexuation, à la différence des sexes. Enfin, il y a un certain nombre de réflexions, je crois, notamment dans ce qu'elle estimait être son chef-d'œuvre, son meilleur livre en tout cas, qui est Le pur et l'impur.
Et alors qu'est-ce qu'elle dirait finalement ? Quelle serait la morale de cette moraliste ?
Ah, alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une morale de cette moraliste. Je crois qu'il y a la mise en pièce en tout cas d'un certain nombre de nos clichés contemporains. De ce point de vue-là, Colette est profondément inactuelle, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Assez souvent, vous savez que la grande manie des journalistes ou des critiques aujourd'hui, c'est de nous dire « Mon Dieu, que cet écrivain est actuel, comme il est contemporain, ouais. Y compris quand ce que nous avons de contemporain est médiocre ou insignifiant. Mm-hmm. » Moi, ce qui me frappe dans Colette, c'est qu'elle va à la fois se manifester par une grande hardiesse dans l'analyse de ce qu'est le donjuanisme, de ce qu'est la jouissance, ce genre de ce qu'est l'homosexualité. Des sujets qui étaient encore un petit peu, je dirais pas tabou, ça serait beaucoup dire, mais enfin, disons, un petit peu limite. Aujourd'hui, c'est devenu presque anormal de ne pas en parler. Bon, ce qui me frappe donc, c'est son souci de ne jamais s'engluer dans l'expérience brute, mais de toujours se demander qu'est-ce que ça signifie. Et quand vous lisez Le pur et l'impur, quelle est la leçon que vous pouvez en tirer ? Puisque vous voulez une leçon, ben je vais essayer d'en
dégager. Nous voulons une leçon, oui. Nous voulons des leçons.
Elle conclut en disant que la pureté ne lui a pas accordé, enfin, ne lui a pas révélé de sens intelligible. C'est une fin extraordinaire qu'elle a beaucoup travaillée, d'ailleurs. Il y a deux ou trois versions différentes de cette fin, dans laquelle elle dit, en gros, ben, j'ai eu beau chercher pendant tout ce livre, j'ai pas trouvé ce que c'est que la pureté. En revanche, elle a trouvé ce que c'est que l'impureté, je pense. Et paradoxalement, pour quelqu'un qu'on présente comme une espèce de bacchante débridée, dévergondée, etc., ce qui me frappe, c'est que, par exemple, elle déclare que le libertinage saphique est inexcusable. C'est très curieux. Mm-hmm. Très, très curieux.
Où est-ce qu'elle dit ça ?
Dans Le pur et l'impur. Elle dit, par exemple, que... Enfin, elle laisse entendre sa réserve envers les consumés d'essence, ce qu'elle appelle les énergumènes, qui ont leur gouffre quotidien à 5 heures. Entendez ? Leur partie de jambes en l'air à 5 heures.
5 à 7.
Les fameux 5 à 7, dans les garçonnières, etc. Toutes les formes d'addiction, notamment à la consommation sexuelle, toutes les obsessions de la performance, comme nous disons aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas. De ce point de vue-là, elle est profondément inactuelle.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi chez Colette au fur et à mesure de sa vie? Parce que la Colette dont vous parlez, ce n'est peut-être pas celle qui montrait son sein sur la scène du musical. C'est peut-être celle qui, au Palais Royal, ne pouvait plus aussi.
C'est un petit peu avant déjà.
Qui pouvait moins être dévergondé.
Bien sûr. Il est clair que, moi, je suis arrivé à un âge où on mesure ça pour soi-même. Il est clair qu'on prend de la distance envers tout ça. Et heureusement. Simplement, je crois que très tôt, en fait, il y avait cette préoccupation analytique et réflexive. Vous la voyez déjà dans La Retraite sentimentale, qui a l'air d'être un roman, mais dont une de nos collègues, qui s'appelle Marie-Christine Bellosta, a parfaitement montré que c'est en fait une sorte d'essai déguisé en roman sur ce qu'est ou n'est pas l'honnêteté, la décence, quel est le sens qu'on donne à la consommation, etc., etc.
Voici ce qu'elle disait justement à André Parino au sujet de La Retraite sentimentale.
Quelles étaient, au moment où vous avez écrit ce livre, vos relations et votre situation vis-à-vis de M. Willy?
Mais si je ne me trompe, c'est du domaine de la discrétion la plus formelle, cette question.
Indiscrétion sans doute, mais je pense que votre réponse, si elle était complète, aurait de l'importance pour votre œuvre, parce que La Retraite sentimentale est tout entière baignée dans une atmosphère qui, peut-être, je le crois, doit être expliquée par votre situation à ce moment-là.
Ma situation, je pense que j'excéderais singulièrement la vérité si je l'appelais conjugale.
Est-ce à dire que votre séparation avec M. Willy était déjà décidée?
Ma foi, je ne saurais pas situer exactement la date de ce que vous appelez une séparation définitive et... Non, je... 1907, vous me dites. Oui, bon, je ne crois pas avoir beaucoup à satisfaire votre curiosité et... La curiosité éventuelle de mes auditeurs, je ne vois rien à vous dire de bien grave là-dessus.
En fait, quand on l'interroge sur La Retraite sentimentale, on l'interroge surtout sur elle. Et dans, finalement, cette gêne qu'on sent chez Colette à finalement répondre à ces questions qui sont des questions d'ordre privé, on se rend compte qu'elle avait une image d'immoraliste, puisque si le journaliste se permet de lui poser des telles questions à l'époque, c'est que on considère que c'est faisable, parce qu'elle-même est immoraliste. Donc l'image aussi de Colette a beaucoup joué dans cette notion.
Bien sûr, et elle-même, je crois, a joué à un moment donné de cette image-là, parce que ça permettait de faire parler d'elle, ça permettait de faire vendre les livres. Il y a tout un aspect que Willy lui a parfaitement appris, d'autopromotion de soi et, je dirais même un peu vulgairement, de marketing. Bon, c'est pas ça qui est l'enjeu majeur, en tout cas d'un livre comme La Retraite sentimentale, me semble-t-il. Si vous le lisez attentivement, vous apercevez que ce qui est en débat, car c'est un débat, c'est ce que signifient les expériences d'Annie, femme qui aime trop les hommes. Et de ce point de vue-là, le personnage de Claudine s'est mis en retrait. D'abord parce qu'elle est dans le veuvage, dans l'abstention, etc. Et deuxièmement, qui est-ce qu'on voit apparaître dans le débat? C'est Annie qui aime trop les hommes, et puis un personnage de jeune, évaporé, qui aime un peu trop les hommes. Donc ce sont deux versions symétriques d'une addiction au plaisir.
Mais est-ce qu'elle les condamne vraiment?
Absolument pas. Elle ne les condamne pas, mais elle montre, je pense, par la confrontation des discours qui sont tenus, les limites de cette façon de vivre la chose.
En fait, c'est ça qui est assez agréable quand on lit un livre de Colette, c'est que on ne sait pas très bien, en effet, où elle se situe elle-même, soit du côté de la permissivité extrême, soit, comme vous le dites, d'un certain jansénisme.
Une certaine réserve, en tout cas, retenue. Oui. Elle dit elle-même qu'elle était un écrivain bien caché derrière son roman voluptueux.
Alors ça, c'est pour la volupté, mais il y a aussi la vertu, notamment par rapport à l'argent. Et je pense à ce fait divers de 1924, à l'Opéra Comique. Vous pouvez peut-être nous dire de quoi il s'agit, Jacques Dupont ?
Ah oui, c'est cette histoire merveilleuse d'un caissier de l'Opéra Comique qui avait tapé dans la caisse pour pouvoir mener une double vie.
C'est une histoire merveilleuse. Donc la nuit, il se déguisait et il allait danser dans les clubs.
Voilà. Et évidemment, ça a mal tourné pour lui. Et
Colette nous raconte ça. Il a pris 527 000 francs, tout de même, c'est beaucoup.
Pour l'époque, on était encore à l'époque des francs or, si j'ai bonne mémoire, donc c'était beaucoup d'argent, en effet. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pas seulement dans ce cas particulier, car Colette a beaucoup réfléchi sur les faits divers, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs, comme Jouandeau, comme Giono, comme quelques autres. Bon, et elle avait raison de méditer sur les faits divers, parce que c'est extraordinairement instructif. Quand on s'intéresse à ce qu'il est convenu d'appeler pompeusement la condition humaine, c'est un raccourci formidable, à condition que les journalistes nous disent la vérité, ce qui est rarement le cas. En tout cas, ce qui me frappe dans la façon dont elle rend compte de ce fait divers, c'est la relative suspension du jugement moral. Elle décrit un cas. Et c'est souvent ce qui se passe, notamment, Frédéric Maget en parlait hier, lorsqu'elle rend compte de procès. C'est la même chose. Elle n'est pas du tout dans la condamnation morale ou dans l'imposition d'une norme. Elle cherche à comprendre. Et à observer.
Mais là, ça va même plus loin parce que elle prend le parti.
Quasiment parti, absolument.
Du caissier. Au fond, il a raison. Il a bien fait de piquer dans la caisse.
En effet, c'est le goût colettienne du paradoxe. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui fait du journalisme et qui, à ce titre, a besoin de piquer l'attention de son lecteur et de le provoquer un petit peu. Sinon, s'il n'y a pas ce dialogue-là entre la journaliste et son lecteur, ça ne marche pas, c'est plat. Bon. Donc elle fait un usage peut-être immodéré du paradoxe dans son journalisme, c'est vrai. Mais dans ce cas précis, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle prend le parti de la passion. Contre la norme petite bourgeoise.
Oui, parce que la femme du caissier est apparemment quelqu'un de très ennuyeux.
Absolument.
Et finalement, ce qu'on comprend, c'est que la vertu, elle n'est pas du côté de la femme bourgeoise et ennuyeuse dans les yeux de Colette. La vertu, elle est ailleurs. Elle est peut-être dans ces nuits de déguisement passées par le caissier qui finalement est libre, c'est ça. Et c'est une qualité, une vertu.
Vertu, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, une qualité, incontestablement.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Jacques Dupont va marquer une pause, comme chaque jour dans cette émission, pour saluer nos amis des revues littéraires. Et aujourd'hui, c'est Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française, qui nous fait le plaisir de sa visite. Bonjour Michel.
Bonjour Mathieu.
Et bonne année.
J'allais le dire.
Ben oui. Au sommaire de la Nouvelle Revue Française de janvier, Ariane Chemin, journaliste au Monde, revient de manière approfondie sur ce livre, cette correspondance qui est presque devenue une affaire, Mitterrand-Pinjot.
Oui, cet article d'Ariane Chemin est une façon d'explorer la clandestinité d'une histoire qui a éclaté sur le tard. On a appris, les Français ont appris que François Mitterrand avait une autre vie, d'une certaine manière, et cela depuis très longtemps. Et ce qui est intéressant dans l'article d'Ariane Chemin, c'est que
il n'y a pas de jugement moral, hein, c'est comme pour
non,
Colette.
Non, il n'y a absolument aucun jugement moral. Mais c'est frappant de voir que les conditions de cette clandestinité nous continuent de nous plonger dans un univers très mitterrandien, très marqué par le 19e siècle, très marqué par un univers qui aujourd'hui peut nous paraître totalement surréaliste. Enfin, je laisse de côté tout ce qui concernait les écoutes, le caractère policier et un peu balzacien de la ténébreuse affaire qui était là, mais c'est surtout l'empreinte du 19e siècle, en fait, qu'on ressent à la lecture de cet article, et qu'on ressent très très fort, et pour le plaisir de la lecture, à la lecture des lettres qui ont été publiées ces derniers mois.
Est-ce qu'on sait si François Mitterrand lisait Colette, Jacques Dupont, vous avez une idée?
Je n'ai jamais cité François Mitterrand, donc je n'en sais rien.
Autre dossier dans la Nouvelle Revue Française, Michel Crépus, c'est sur la préhistoire. Vous faites pas de dossier d'habitude?
Oui, ben c'est un peu l'occasion qui fait le larron, si j'ose dire. Il y a un volume tout à fait passionnant paru aux éditions Belin sous la direction de Joël Cornette qui inaugure une série de volumes sur la préhistoire. Et c'est passionnant parce que on découvre que il y a eu des civilisations, des vraies civilisations au sens le plus vraiment classique du terme, qui ne sont pas passées par l'expérience du langage écrit, qui ont inventé leur mode de représentation de leur propre histoire par d'autres canaux que les canaux de l'écriture.
Comme par exemple
le dessin, naturellement, les fresques, enfin ce que l'on connaît tout à fait classiquement à Lascaux ou à Chauvet, mais dans d'autres endroits et dans des cas de figure qui sont encore très très peu connus. Et ça m'a passionné, la lecture de ce livre dirigé par Anne. J'ai parlé de Joël Cornette qui dirige toute la collection, et Anne Leherf qui est l'auteur du premier volume. Vraiment a fait un travail absolument extraordinaire. Alors on évoquera le 12
janvier.
On vient à 18h15 à la librairie Gallimard du boulevard Raspail, où elle viendra évoquer ce travail. Mais c'est vraiment...
Et c'est ouvert à tout le monde, hein, bien sûr.
Oui, oui, bien entendu.
Eh bien merci.
Mais c'est moi, mon cher Mathieu.
Et puis à très bientôt, tout cela et bien plus encore dans les pages de la NRF.
Steps hard on his brakes for fear of squashing a hedgehog or unsuspecting deer.
Toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous parlons de Colette avec l'universitaire Jacques Dupont. Colette, et en particulier la question de la morale dans ses livres, question qui, et c'est ce qui en fait son intérêt, ne se tranche pas facilement chez l'écrivain.
Je crois que Don Juan, s'il y en a eu, s'il y a eu un Don Juan ou plusieurs, je crois qu'il recherche surtout l'illusion d'être tout puissant sur un être, mais il ne lui pardonne pas d'avoir été heureuse par lui. Don Juan, ça ne doit pas être un type très gai. Et puis... il est sans issue. Il devait se dire encore une, et mon Dieu, est-ce que ça ne sera jamais fini? Au fond, il n'est pas très heureux dans ses chasses. Est-ce que vous croyez que d'être condamné à un succès, à une certaine espèce de succès, ce soit quelque chose de très gai? Je ne le crois pas.
And glory to the priest. C'est cela la morale dont vous parlez, Jacques Dupont, cette morale de l'expérience, Don Juan qui accumule les conquêtes et qui à la fin, parce qu'il est malheureux, devrait, selon Colette, choisir le chemin d'un plus grand calme, disons.
Ce qui me frappe surtout dans la conception particulière que Colette a du donjuanisme, c'est deux choses. Une, que la psychanalyse, à peu près à la même époque, avait d'ailleurs un petit peu mise en évidence, c'est-à-dire la misogynie secrète du donjuan, ou du donjuanisme, d'une part. Là, elle l'a retrouvé à sa manière, parce qu'elle ne s'intéressait pas à la psychanalyse, à ma connaissance, ou fort peu. Mais elle a retrouvé intuitivement des choses que les psychanalystes de l'époque disaient du donjuanisme, d'une part.
Et d'autres... cette misogynie qui fait quoi? Qu'on prend quelque chose chez les femmes.
Ce n'est, mon Dieu, ce n'est que ça. Oui. Et puis, une autre dimension qui fait de son Don Juan quelqu'un de très différent du Don Juan de Mozart, par exemple, c'est la mélancolie. Elle dit qu'il n'est pas très gai. Moi, je pense qu'il y a, pour Colette, une mélancolie qui tient au maléfice du nombre. C'est la même mélancolie, selon elle, qui frappe les gens qui font des gymnastiques en comptant. Rappelez-vous le maléfice de l'arithmétique dans L'Enfant et les Sortilèges. Il y a chez Colette cette idée, je crois, que tout ce qui fait nombre est insignifiant.
Vous pouvez nous rappeler ce que c'est?
Quoi donc?
Cet artifice que vous évoquez, vous dites « rappelez-vous » dans L'Enfant et les Sortilèges.
Ah oui, je veux dire, c'est le personnage de l'arithmétique qui surgit et qui terrifie l'enfant. C'est un cauchemar pour lui.
Ouais. Alors, Don Juan, il est une victime finalement, une victime de son vice. Et pour Colette, je crois qu'on le lit dans Claudine en ménage, le vice, c'est ce que l'on fait sans plaisir. Donc c'est ça, finalement.
Il y a peut-être secrètement, mais les psychanalystes le diraient certainement mieux que moi, un non-plaisir de la jouissance répétée, une usure de la chose. Elle a fait dire à son Don Juan dans Le Pur et l'Impur, en jurant quasiment à l'égard des femmes qu'il a séduites tour à tour, « Aucune ne m'a fait grâce ». Et Colette ne dit pas le mot, mais on comprend bien en contexte que c'est, puisqu'elle parle d'un mot bref, aucune ne m'a fait grâce d'un coup.
Alors de moraliste, on peut passer à la philosophe. S'il y avait une philosophie de Colette, ce serait sans doute une philosophie pragmatique, Jacques Dupont.
Pragmatique, incontestablement. Colette a suffisamment les pieds sur terre pour avoir le sens de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Pour elle, comme pour la fameuse pitique dont parle Valéry, il faut se contenter d'explorer le champ du possible, bien entendu. Cela étant, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est parce qu'elle est écrivain qu'on ne peut pas définir avec clarté ce qu'on appellerait sa philosophie. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre très remarquable sur la question du roman à thèse, une américaine, qui fait remarquer très justement qu'il y a littérature dès qu'on abandonne l'inambigu, dit-elle. Et chez Colette, tout reste ambigu. D'abord à cause de sa technique. Très souvent, on ne sait pas ce que pense le narrateur, enfin la narratrice, ou ce que pense l'écrivain de ce qu'elle décrit. Et un exemple très intéressant qu'on trouve dans une de ses nouvelles, parce qu'on n'a pas parlé des nouvelles, mais quelques-unes d'entre elles sont très, très, très fortes, très remarquables.
Lesquelles
préférez-vous ? Je pense en particulier au Sieur Binard, qui décrit une histoire d'inceste rural. Et Colette passe par le relais de Sido, sa mère, et répète un des commentaires de Sido, partagé entre le dégoût de constater ce qu'elle sait, et d'autre part, la constatation non moins paradoxale que les enfants sont très bien tenus, que plusieurs filles du Sieur Binard ont été enceintes de ses œuvres, mais que les enfants sont très bien tenus. Oui. Et elle termine la nouvelle en citant une formule de Sido, « Au fond, les anciens patriarches », et puis Sido n'achève pas sa pensée. C'est très intéressant, parce que techniquement, on ne sait pas ce que Colette pense de ce que dit Sido, on ne sait pas ce que Colette ou la narratrice pense de la situation qui a été décrite, on ne sait pas quelle est sa position sur la question de l'inceste.
Et alors dans cette philosophie de la vie, cette philosophie se traduit finalement sous forme d'aphorisme.
Dans certains cas, oui.
Et c'est là où elle a une pensée qui est une pensée très littéraire. Je voudrais vous citer un certain nombre d'aphorismes et puis je vais vous laisser les commenter. Pour qu'on en apprenne davantage sur la philosophie de Colette. Par exemple, l'esprit de contradiction chez la femme est aussi fort que l'instinct de propriété. Ça, c'est dans Mes apprentissages.
Alors, ça, c'est très intéressant. Ce serait un homme qui l'aurait écrit. On aurait dit machisme infect.
Là, même là, on pourrait dire qu'il y a une espèce de haine de la femme par une femme.
Alors, on peut analyser ça comme ça. Ce qu'on sait de Colette et de ses rapports avec les femmes contredirait peut-être la formule. Enfin, cette idée. Moi, je pense qu'il y a chez Colette la reconnaissance de quelque chose qui n'est peut-être pas exclusivement féminin, d'ailleurs. Tout le monde sait que l'enfance passe par le stade du non, par le stade de la contradiction, etc. Il y a des psychologues de l'enfance qui l'ont montré depuis très longtemps. Donc, Une formule comme celle-ci, faut-il la prendre au pied de la lettre et la traiter avec sérieux? Je pense qu'elle relève
de la provocation
et du clin d'œil qu'elle adresse à son lecteur pour essayer, là encore, de le sortir de son sommeil dogmatique.
Allez, une autre. Qui tromperait-on sinon ce qu'on aime?
Bah, écoutez, je ne vois pas ce qu'on peut ajouter une telle évidence. À qui aurait-on intérêt à tromper?
Ah, mais les gens qu'on trompe n'ont pas l'impression d'être aimés, c'est ça?
Ça, c'est leur problème, c'est qu'ils sont enfoncés dans la possessivité la plus obtuse.
Aucune tentation ne se mesure à la valeur de l'objet. Donc ce qui nous tente, ça n'est pas forcément ce qui est reconnu comme tentant. Qu'est-ce qu'on en tire finalement comme conclusion?
Ben, elle tire la conclusion d'une observation qu'elle a faite à maintes reprises dans son œuvre, c'est-à-dire que le connu ne nous dispense pas de la tentation du frelaté, du médiocre et de l'inconnu. C'est-à-dire cette contradiction inhérente à l'être humain. C'est une vérité d'une évidence flagrante, je crois.
Alors, un dernier. S'étonner est un des plus sûrs moyens de ne pas vieillir trop vite. Ça, c'est vraiment une définition de la manière dont Colette a mené sa vie.
Absolument. Alors là, en revanche, on est dans le résumé le plus brillant qui soit de ce qui l'a maintenu en vie jusqu'à la fin.
Pour terminer cette émission, Jacques Dupont, j'aimerais qu'on parle un petit peu des alliés substantiels de Colette. On sait qu'elle a beaucoup fréquenté Debussy, Proust ou encore Ravel, avec qui elle a même collaboré.
Vint le jour où M. Roucher me demanda un livret de Ferry, ballet pour l'opéra. Je ne m'explique pas encore comment je lui donnais, moi qui travaille avec lenteur et peine, comment je lui donnais l'enfant et le sortilège en moins de 8 jours. Il aima mon petit poème, il suggéra des compositeurs dont j'accueillis les noms aussi poliment que je pus. Mais, dit Roucher après un silence, si je vous proposais Ravel, je sortis bruyamment de ma politesse et l'expression de mon espoir ne ménagea plus rien. Il ne faut pas nous dissimuler, ajouta Roucher, que cela peut être long en admettant que Ravel accepte. Il accepta. Ce fut long, en effet. Il emporta mon livret. Nous n'entendîmes plus parler de Ravel ni de l'enfant et les sortilèges. Où travaillait Ravel? Et travaillait-il? La guerre prit Ravel, fit sur son nom un silence hermétique, et je perdis l'habitude et l'espoir de penser à l'enfant et le sortilège. 5 ans passèrent. L'œuvre achevée et son auteur sortirent du silence, échappèrent à l'œil nyctalope et bleu des chats du Siam, confident de Ravel. Mais celui-ci ne me traita pas en personne privilégiée, ne consentit pour moi à aucun commentaire, à aucune audition prématurée. Il parut seulement se soucier du duo miaulé entre les deux chats, et il me demanda gravement si je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'il remplaça « miaou » pour « miaou » ou bien l'inverse.
Il y a vraiment autant de miaou différents dans le livret de Colette, Jacques Dupont?
Je n'irai pas jusque-là pour cette excellente raison que En réalité, Ravel est intervenu probablement bien davantage dans les livrets de Colette qu'on ne le dit. Simplement, il n'y a pas de trace.
C'est pour ça qu'il a peut-être mis 5 ans avant de lui rendre sa composition.
Non, je pense que les 5 premières années, il n'a pas réellement travaillé à ça. Et j'ai une hypothèse. Outre le fait que la guerre, je crois me souvenir aussi que Ravel avait perdu sa mère, était dans une sorte de dépression à ce moment-là, dont il a émergé justement en se remettant au travail. Je crois qu'il y a une autre raison, et que Colette ne dit pas toute la vérité dans ses entretiens avec Parini, ni d'ailleurs dans le texte.
Ça lui ressemblerait.
Disons qu'elle a pris quelques libertés, peut-être la mémoire de cette période-là est un petit peu ancienne, je ne sais pas. Il s'est passé en fait une chose assez différente de ce qu'elle nous dit. Initialement, Rouchet, le directeur de l'opéra, a proposé à Ducas de mettre en musique le texte de Colette. Ducas a refusé. Ensuite, Colette elle-même a demandé à Stravinsky de mettre ça en musique. Je le sais, il y a une lettre de Colette à Stravinsky qui est conservée à Bâle, dont j'ai la photocopie.
Il faut dire que vous travaillez en ce moment sur ce sujet.
Je travaille un petit peu là-dessus en ce moment, pour diverses raisons. Et je suis allé de découverte en découverte, et je me suis rendu compte que ce que j'avais moi-même écrit autrefois sur le sujet était assez largement inexact. Donc je tiens à faire amende honorable publiquement. ce n'est qu'en dernier ressort qu'on s'est tourné vers Ravel. Et à mon avis, il y a une raison pour laquelle on n'a pas tout de suite sollicité Ravel. C'est que Colette devait être un petit peu en froid avec Ravel à cause de son mari Willy, qui avait passé son temps à dire du mal les premières œuvres de Ravel. Donc par contiguïté, il est clair que Ravel devait avoir quelques réticences à travailler avec...
Donc il lui aurait fait payer comme ça en la faisant attendre pendant très longtemps.
Je ne sonde pas les reins et les cœurs, j'ignore ce qui s'est passé exactement dans la tête de Ravel. J'aurais tendance à penser que dans le cas de Ravel, la rédaction de la partition est une partie intégrante du travail du deuil, personnellement. Et la réinvention de l'enfant qu'il a été lui-même, la mère étant morte, on se redemande, assez logiquement, quelle sorte d'enfant on a été. Moi, c'est mon hypothèse.
Donc, rien à voir avec Colette, en réalité.
Je ne peux pas l'appuyer sur des documents qui manquent. C'est une période de la vie de Ravel. J'ai regardé un petit peu les biographies récentes. C'est une période assez mal connue, en fait.
Donc, la musique, de manière générale, pour Colette, c'est très important.
Très important, très important. Certains stylisticiens insistent beaucoup sur les dimensions musicales, de la syntaxe, et dans certains cas, des sonorités de Colette. Je lisais pas plus tard qu'il y a 15 jours, 3 semaines, une interview d'une pianiste assez connue qui s'appelle Anne Kefelek, dans laquelle elle disait tout le bien qu'elle pensait de l'œuvre de Colette. Et j'ai remarqué que souvent les musiciens sont très sensibles à l'œuvre de Colette.
Donc elle est à la fois peintre, voilà, musicien, écrivain.
Elle était bonne pianiste. Il y a des témoignages tout à fait surprenants de Colette capable de se mettre au pied levé à accompagner quelqu'un en train de chanter du Duparc, par exemple. On n'imagine pas qu'il y avait un piano assez longtemps au Palais Royal. C'est à la fin de sa vie que le piano a disparu. Elle ne pouvait plus... Elle avait une formation musicale. Son entourage, à l'époque où elle était aux ateliers de M. Willy, ne pouvait que l'inciter davantage à approfondir sa culture musicale. Elle connaissait très très bien un certain type de musique, et notamment la musique française du tournant du siècle, Debussy, Ravel, etc.
Alors, l'art du portrait, qu'on a entendu très bien dans l'archive précédente au sujet de Ravel, on peut le retrouver au sujet de tout un tas de personnes qu'elle a fréquentées. Et peut-être pour terminer cette émission, pourrait-on dire un mot de Proust qu'elle a aussi portraituré?
Ah, bien sûr. Elle l'a portraituré à ma connaissance à 2 reprises. Et elle en parle d'abord de façon très péjorative dans une des Claudines en le traitant de petit youpin des lettres. Et Willy prétendait même que c'était lui qui avait cherché à faire atténuer cette formule un petit peu difficile.
Bon. Pour le moins.
Pour le moins. Je pense qu'elle n'a pas pris Proust particulièrement au sérieux au départ. Je pense que c'était une relation mondaine. Le salon qu'elle y avait, dans lequel elle traînait un petit peu à la suite de son mari, jusqu'à ce que Willy se brouille avec les qu'elle y avait, et donc qu'elle cesse de fréquenter ce salon.
Mais elle a dit qu'elle avait adoré du côté de chez soi.
Absolument. Alors, je crois que c'est l'écrivain qui l'a séduite plus que la relation vaguement mondaine qu'elle avait eu l'occasion de croiser de ci, de là. Et elle avait une excellente connaissance, en effet, de l'œuvre de Proust. Ça, oui.
Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces deux écrivains? A priori, On pourrait penser que non, mais peut-être peut-on en voir tout de même.
Si, si. Moi, je pense qu'il y en a un certain nombre. J'évoquais tout à l'heure ce qui, dans l'œuvre de Proust, témoigne d'une sorte de, comme disent les bépédants, de resubjectivation du roman, avec le recours à la première personne, qui permet d'entrer dans les sensations, justement, du narrateur. Je pense que cette leçon-là, Colette l'a parfaitement assimilée. Mmh. La dimension poétique du style de Proust, le recours massif aux métaphores et ce genre de choses, on en trouve des traces aussi, je crois, chez Colette. Incontestablement. Puis il y a aussi, même s'il s'est traité très différemment chez Colette et chez Proust, la question de la mémoire. Il n'y a pas de dimension métaphysique de la mémoire chez Colette, je crois, mais il y a une comparable obsession de la mémoire.
Merci beaucoup, Jacques Dupont. Je rappelle que vous aviez contribué à la Pléiade Colette, que vous êtes également l'auteur de Physique de Colette, paru en 2003 aux presses universitaires du Midi. On trouve également votre signature dans le cahier de Lerne Colette, qui date de 2011. On aurait évidemment souhaité poursuivre, notamment sur ce dernier sujet. Mais malheureusement, nous n'en avons pas le temps. Demain, dernier moment de notre série, je recevrai Julia Kristeva. Nous parlerons du génie féminin et de la jouissance féminine chez Colette. Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la poésie. Jacques Bonafé.
Bonjour, troisième jour avec la négritude. Guy Tirolia. Sur le site internet d'Ilan Hill, un article de Ronald Seldbone nous informe sur Guy Tirolien ou la germination mélodique. N'en déplaise aux exécuteurs testamentaires de la gare des Michards, nous osons proclamer que jamais poète de langue française, quel que soit le siècle considéré, n'a atteint tel degré dans le génie de la mélodie. Tirolien allie l'ondulation somptueuse d'un perse, Saint John Persin, à la rythmique nègre et la simplicité d'un Damas, Léon Gontran Damas, hein, révisé, c'était les jours d'avant. Si Césaire est la parole de l'impératif, Tyrolien est celle de l'indicatif. Tyrolien scrute le quotidien en changeant en mélodie les tumultes du monde, saisissant au vol la germination muette des réponses, la même où la question n'est pas encore posée. Satchmo. Non, ne fermez pas l'oreille au hoquet, au sanglot, au subtil glissando, à la stridence, à l'insistance, à la cadence des blues, swingés haut par la trompette de Satchmo. Plainte étouffée dans le gosier du noir lynché, glou-glou du sang, glissant sur les courants puissants du fleuve Mississippi. Lent balancement des corps, frénésie des sermons et long cri d'hystérie dans le roulis des églises noires du Missouri, éclair vert jaillissant des bûchers crépitants de Virginie, du Kentucky, de Géorgie, désir rouge réchauffant les nuits d'Alabama, d'Oklahoma, des Bahamas. Ne fermez pas l'oreille au hoquet, au sanglot, au subtil glissando, à la stridence, à l'insistance, à la cadence des blues swing et haut par la trompette de Satchmo. Ne fermez pas l'oreille au rire, au soupir, au délire, aux éclats, au wa-wa, à la joie qui se bouscule, ha-ha, qui s'accumule, je te crois, dans la trompette de Satchmo. Sourire des bébés noirs éclairant la nuit noire d'Alabama, d'Oklahoma, des Bahamas. Joie truquée des filles noires, des filles jaunes, dans les cabarets noirs de Harlem, cherchant au fond d'un whisky brun, d'un whisky or, le visage oublié d'un garçon brun, d'un garçon jaune de bâton rouge ou de Natchez. Rire du peuple noir roulant dans les rues noires de Frisco, de Chicago, de Santiago. Non, ne fermez pas l'oreille au rire, au soupir, au délire, aux éclats, au wa-wa, à la joie qui se bouscule, ah ah, qui s'accumule, je te crois, dans la trompette de Satchmo.
Voilà, Jacques Bonafé sur France Culture.